Zacharie,
chapitre 7. Nous allons lire simplement tout d'abord les trois premiers versets pour y attacher en premier lieu notre attention. La quatrième année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie le quatrième jour du neuvième mois qui est le mois de Kisleu. On avait envoyé de Bethel, Charetzer et Reguem-Melech avec ces gens pour implorer l'Éternel et pour dire au sacrificateur de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes, faut-il que je pleure au cinquième mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années. Voyons d'abord ce que ce commencement signifie. Une certaine délégation des habitants de Bethel, la ville de Bethel, se rend à Jérusalem pour consulter les sacrificateurs et les prophètes, et cette démarche va être l'occasion de la prophétie de ce chapitre 7 et même du chapitre 8. Cela se passait la quatrième année du roi de Darius, il y a là une situation qui est tout à fait précise dans le temps. Darius, nous l'avons dit en commençant l'étude du prophète, était le fils d'Istasme, je dis cela pour le distinguer des autres Darius, le fils d'Istasme et était d'origine persane. Il était monté sur le trône de Babylone en 521 avant notre ère. Alors, nous étions à la quatrième année de ce roi. L'année où il est monté sur le trône compte comme première année, si bien que nous étions là en 518 avant notre ère, le quatrième jour du neuvième mois, c'est-à-dire entre novembre et décembre. Kisleu correspond, est à cheval sur nos mois de novembre et décembre. Zacharie avait débuté son ministère de prophète le huitième mois de la seconde année de Darius, soit environ 23 mois auparavant, presque 2 ans auparavant. Il y avait donc à peu près 2 ans que Zacharie avait eu, dans une nuit mémorable, les 8 visions que nous avons étudiées. Où en était-on, à ce moment-là, de la reconstruction du temple? Les travaux qui, comme je l'ai indiqué, avaient été interrompus après l'édit de Darius, les travaux avaient cependant repris le 6e mois de la seconde année, donc 2 ans environ auparavant, et ces travaux étaient bien avancés. Il restait encore presque 3 ans pour achever l'œuvre de reconstruction du temple. Bethel, d'où provenait cette délégation, était cette ville dont parle l'Écriture, située au nord de Jérusalem, pas tellement éloigné, je ne sais pas combien de kilomètres, mais enfin assez peu éloigné de Jérusalem. Et c'est cette ville de Bethel qui avait été rétablie, l'une des premières, au retour des Juifs de l'exil en Babylonie. Cela nous est dit par le livre d'Esdras, par le livre de Néhémie également. Prenons, si vous voulez, le livre d'Esdras, chapitre 2, verset 28, « Les gens de Bethel et d'Aï, 223 ». Bethel et Haï étaient deux villes très voisines. 223, c'étaient les habitants, les juifs qui étaient revenus. Car en effet, au début chapitre 2, nous avons ceci. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, c'est-à-dire Nabucodonosor II, dans l'histoire profane, roi de Babylone, avait emmené captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, ce Zorobabel que nous voyons à l'œuvre ici, Josué, le souverain sacrificateur, Néhémie et autres, et il y avait même Mardoché là, n'est-ce pas, dans ce retour. Enfin, ils faisaient partie du premier retour de Babylone, et la ville de Bethel avait donc été rétablie comme ville juive dès le commencement de ce retour. Ces Juifs décident d'envoyer une délégation à Jérusalem, conduite par deux personnages qui nous sont désignés ici, Charetzer et Reguem Melech. Nous ne les connaissons pas autrement, ces personnages, parce qu'ils portent des noms babyloniens. Ce ne sont pas des noms hébreux, ce sont des noms babyloniens. Vous savez qu'en au cours de l'exil, qui avait duré donc 70 ans, selon la prophétie de Jérémie, au cours de cet exil, on avait donné à des juifs des noms babyloniens. Daniel lui-même, le prophète Daniel, avait reçu un nom babylonien, Belshazzar. Alors ils viennent pour implorer l'Éternel, bien entendu, il faut d'abord aller devant dans le temple, quand on vient à Jérusalem, et puis ils viennent pour poser des questions aux sacrificateurs et aux prophètes. Et que demandent-ils ? Ils demandent ce qu'il y a au verset 3, « Faut-il que je pleure au cinquième mois et que je fasse abstinence, autrement dit, jeûne, le jeûne, comme je l'ai fait tant d'années ?» C'est-à-dire comme la tradition en est établie maintenant. La tradition était établie à ce moment-là de jeûner le dixième jour du cinquième mois. Et pourquoi cela ? Parce que c'était l'anniversaire de l'un des désastres qu'avait connu le peuple. Ce jour-là, en effet, Jérusalem et le temple avaient été incendiés par les Chaldéens, et c'était cela la 11e année du roi Sédécias. Tout cela, nous avons toutes ces choses-là dans les livres historiques. Livres historiques de la Bible, c'est-à-dire le deuxième livre des Chroniques et le deuxième livre des Rois. Et puis, il y avait d'ailleurs d'autres jeunes dont nous allons avoir à parler. Je reprends la lecture au verset 4, et nous irons jusqu'au verset 7. « La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots, dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au cinquième et au septième mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné, et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes d'alentour et que le midi et la plaine étaient habitées? » Voici le commencement de la réponse que le prophète Zacharie est chargé par Dieu, qui lui parle, d'apporter au peuple. Il y a remarqué ceci dans cette réponse. Il n'est pas question seulement du jeûne du cinquième mois, mais il est aussi question du septième mois. Parce que, en effet, le troisième jour du septième mois, il y avait encore un autre anniversaire tragique, c'était celui de l'assassinat de Guédalia, et par conséquent, la fuite, ça avait été un incident qui avait soulevé la colère de Babylone, et les Juifs s'étaient enfuis, les Juifs qui restaient encore en Palestine avaient dû s'enfuir. Et pendant tout le temps de l'exil, il y avait eu ces jours-là, et il y en avait même encore, il y avait encore deux autres anniversaires, il y avait eu ces jours-là des jours de deuil et de jeûne. On avait, il y avait quatre anniversaires des désastres subis par Jérusalem et le peuple, et ces quatre jours dans l'année, on les avait considérés comme jours de deuil et de jeûne. Mais puisque le temple était en reconstruction et que la restauration, comme nous l'avons vu, du peuple venait d'être décidée par l'Éternel, restauration de la royauté, du sacerdoce, reconstruction du temple et de Jérusalem, puisque tout cela s'accomplissait à les bons trains et tout cela était en cours, fallait-il continuer de jeûner ces jours traditionnels de deuil? Fallait-il encore marquer ces deuils et ces jeûnes, n'est-ce pas, dans l'année, puisque, en somme, n'est-ce pas, des jours meilleurs étaient là, étaient en vue? Voilà le sens de la question qui est posée par ces délégués de Bethel aux sacrificateurs et aux prophètes à Jérusalem. C'est Zacharie qui répond. Mais Zacharie n'est pas chargé de répondre à la délégation, petite délégation de Bethel seulement, il doit répondre à tout le peuple. Ce qu'il va dire, il va l'élargir à tout le peuple et aux sacrificateurs également. Et voici la réponse de l'Éternel. Dis à tout le peuple du pays, aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au cinquième et au septième mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? C'est-à-dire, il faut paraphraser pour faire comprendre ce qu'est cette réponse. Y avez-vous apporté les dispositions de cœur qui m'auraient été agréables? Était-ce selon un véritable sentiment de douleur et d'humiliation que vous avez pleuré et jeûné pendant ces 70 ans? Car les désastres que vous déploriez par le jeûne et par le deuil n'avaient-ils pas été la conséquence de vos infidélités persistantes? Ce n'est pas tout de dire « nous avons connu le malheur, nous sommes accablés et nous sommes là sous le joug de l'étranger, dans un pays étranger ». Ce n'est pas tout de pleurer sur soi et sur ses malheurs, mais il faudrait peut-être par le cœur en reconnaître la cause. Et la cause, c'est une cause qui avait atteint l'Éternel, qui avait atteint Dieu. Ne l'avez-vous pas fait dans le seul rappel de vos souffrances, mais avec un cœur où il y avait encore de la sécheresse et en dehors de tout esprit de repentance? Voilà surtout, n'est-ce pas, n'avez-vous pas, en somme, pleuré sur vos malheurs, pleuré sur vous, pleuré, en somme, sur l'homme, n'est-ce pas? Il arrive souvent que l'homme aime bien se livrer à des pleurs, mais ces pleurs n'ont aucun sens devant Dieu s'ils ne sont pas ceux que produit un cœur brisé. Nous allons pour cela lire, consulter d'abord dans le Nouveau Testament la deuxième épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens, et nous allons voir que d'une manière constante, Dieu veut que si l'on pleure, si l'on est dans le deuil, ce soit pour se repentir véritablement du mal que l'on a fait, des offenses que l'on a faites à Dieu. 2 Corinthiens 7, 10, chapitre 7 et verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Voilà bien, n'est-ce pas, le départ entre deux formes de tristesse, entre deux accablements. Il y a un accablement qui est générateur d'un retour de l'homme à son Dieu par la voie de la repentance. Mais il y en a un autre qui ne sert absolument à rien sinon d'entraîner toujours davantage l'homme dans son erreur, dans son égoïsme, c'est-à-dire dans la mort. Il y a donc ces deux formes de tristesse, tristesse selon Dieu qui produit une repentance à salut, et la tristesse du monde, c'est-à-dire la tristesse que la nature humaine va elle-même concevoir à certains moments, n'est-ce pas, et qui n'a absolument aucun rapport avec la reconnaissance par le cœur des fautes commises, c'est-à-dire des causes qui ont produit l'arrivée des malheurs. Et puis, nous avons le psaume 51, versets 17, 18 et 19. « Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Voilà, chers amis, des choses qui sont claires et des choses qui sont actuelles. Nous étudions un prophète d'Israël, mais vous voyez combien cette étude nous apporte de leçons profitables, actuelles, des leçons qu'il nous faut recevoir tout autant que le peuple d'Israël avait, lui, à les recevoir. Nous avons à les recevoir à ce moment-là. Il n'est pas question des différences de dispensation, n'est-ce pas ? La différence est grande. Mais il n'est pas question de cela. Il est question de l'attitude du cœur humain devant son Dieu. Et cela, dans les situations dramatiques, difficiles, pénibles, que nous avons à connaître et à traverser. Il s'agit donc, là, n'est-ce pas, de l'attitude du cœur humain devant Dieu. Lorsqu'il y a des malheurs, lorsqu'il y a un accablement, ce n'est pas une fatalité, il n'y a pas de fatalité. Mais c'est parce que nous n'avons pas pris garde de conserver sur nous la bonne main de notre Dieu, la protection de notre Dieu, et alors notre Dieu nous a laissé aller, puisque nous voulions aller. Nous voulions aller selon les penchants de notre cœur. Nous cédions à ces penchants, nous résistions à la parole de Dieu, nous nous éloignions de cette parole. Alors Dieu nous a laissé aller dans la liberté. Mais voici, n'est-ce pas, que à tout péché, il y a conséquence, plus ou moins proche, plus ou moins terrible peut-être, mais les conséquences ne manquent jamais d'arriver, n'est-ce pas ? Et alors, ce sont les malheurs. Je disais ce matin, le mal, n'est-ce pas, en hébreu, ra, le mal engendre le malheur. Et alors, c'est alors que l'homme souffre c'est alors qu'il est meurtri, et c'est alors que s'il veut que cette situation change, s'il veut revenir à l'Éternel, il lui présentera un cœur brisé et contrit. Il entrera volontiers sur l'invitation d'ailleurs de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu le lui dira. Il ne résistera pas à l'Esprit de Dieu qui lui dira d'entrer dans cette repentance qui n'est pas un avilissement, mais qui est une humiliation nécessaire et une reconnaissance des infidélités à Dieu. S'il n'y a pas d'esprit brisé, s'il n'y a pas de retour sur soi, s'il n'y a pas de regret authentique de l'infidélité, eh bien alors, voilà ce que l'Éternel dit par la voix de Zacharie, alors le jeûne et le deuil ne sont que mouvements du cœur humain, mouvements sans valeur, sans aucune valeur devant Dieu. Voilà la réponse, n'est-ce pas, de Dieu, la première partie de la réponse de Dieu. Et nous voyons, n'est-ce pas, qu'elle est claire et qu'elle est nette. Nous, hommes, nous pouvons la comprendre, cette réponse. Tout le monde peut la comprendre. Il ne faut pas, n'est-ce pas, que d'aucuns disent « Oh, la Bible est un livre obscur, un livre difficile, n'est-ce pas, qui peut connaître ce livre ? Il faut, bien entendu, qu'on nous l'interprète, et alors on va nous l'interpréter comment ? Mais dans toute l'Église catholique, chers amis, je suis... j'ai été baptisé catholique très jeune, tout petit, et par conséquent été élevé dans le catholicisme. J'ai même porté dans une institution religieuse la soutane rouge, bien que n'étant pas encore cardinal, bien sûr. Eh bien, je puis vous dire une chose, c'est qu'on ne m'a jamais expliqué la Bible. Et pourtant, c'était une institution qui menait au baccalauréat, tout de même, on nous apprenait des choses qui allaient de difficulté en difficulté. Eh bien, jamais, jamais, on a ouvert la Bible pour l'expliquer. Et j'aimerais connaître les paroisses catholiques où l'on ouvre vraiment la Bible pour l'expliquer comme il convient, n'est-ce pas ? Alors, sous prétexte que le livre de Dieu est un livre obscur, difficile à comprendre, alors tout le monde le tient fermé, même ceux qui auraient, dit-on, à l'expliquer. Mes chers amis, nous voyons que cela n'est pas vrai, car nous venons là de nous intéresser à ce début de la réponse de l'Éternel au peuple juif revenant de l'exil, et nous avons compris, nous avons très bien compris ce que Dieu demande des cœurs, quelque chose d'authentique dans le fond des cœurs. Lui qui lit dans les cœurs, il veut y trouver vraiment cet esprit brisé et contrit, cet esprit de repentance sans lequel il n'y a pas de retour à lui possible. Et alors nous arrivons au verset 6, au verset 6. Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, manger et boire, c'est l'opposé de jeûner, l'opposé du jeûne. Alors ici, Dieu dit, si les Juifs n'ont pas jeûné pour Dieu, ce ne sera pas davantage pour lui qu'ils supprimeront le jeûne, c'est-à-dire qu'ils mangeront et qu'ils boiront. Ils n'ont pas jeûné, vous n'avez pas jeûné pour moi, alors si vous vous remettez à manger et à boire ces jours de deuil, c'est pas pour moi non plus que vous allez le faire, n'est-ce pas ? Si vous n'avez pas fait le jeûne pour moi, que vous cessiez le jeûne, que voulez-vous que cela me fasse ? N'est-ce pas ? Cela n'intéresse pas votre Dieu, cela lui est indifférent, puisque ce n'est pas pour lui que vous avez jeûné. Alors vous pouvez toujours cesser un jeûne comme celui-là. Autrement dit, faire ou ne pas faire quelque chose de religieux, cela n'intéresse pas du tout Dieu. Dieu ne veut pas s'intéresser à cela. Si ce n'est pas réellement pour lui que l'on a fait quelque chose, ou qu'on cesse de le faire, n'est-ce pas? Si c'est pour obéir à Dieu, si c'est pour plaire à Dieu que l'on fait quelque chose, ou que l'on cesse de faire quelque chose, c'est très bien. Mais que l'on fasse quelque chose, ou que l'on cesse de faire quelque chose, en dehors de Dieu, en dehors de son esprit, au-delà de sa parole, et avec un cœur qui lui est fermé, cela n'intéresse nullement notre Dieu. Et aujourd'hui, il en est exactement de même aujourd'hui. C'est toujours, en somme, quand on fait quelque chose sans Dieu, en dehors de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, c'est toujours la volonté propre de l'homme qui s'accomplit. C'est toujours ça. On en revient toujours à ça. L'homme substitue sa volonté à celle de Dieu, il décroche du côté de la volonté de Dieu et il suit la sienne, n'est-ce pas? Alors, Dieu n'est pas intéressé. Aujourd'hui, n'est-ce pas, on peut très bien revenir à des formes religieuses, ou alors, comme nous le voyons dans ces réformes prétendues du catholicisme aujourd'hui, n'est-ce pas? On abandonne le rite ancien, le rite de je ne sais plus quel pape pour adopter un rite nouveau, dérivé des travaux du dernier concile. Bon, ben que l'on fasse cela, qu'on ne le fasse pas. Il y a un grand débat aujourd'hui, n'est-ce pas, dans la presse écrite et parlée. C'est un certain évêque, Monseigneur Lefebvre, s'appelle-t-il, n'est-ce pas, qui est très attaché au rite traditionnel, au rite ancien, notamment celui de la messe, n'est-ce pas, avec l'utilisation du latin, etc., n'est-ce pas. Et puis, il y a des petites différences de mots qui sont souvent des enfantillages. Bon, enfin, bref, il y a le débat entre cela, n'est-ce pas, c'est la position des intégristes, comme on l'appelle, hein, les intégristes qui sont attachés à la tradition. Alors ils ont actuellement un porte-drapeau qui est cet évêque-là, Monseigneur Lefebvre, et puis alors les autres, la grande masse des autres, n'est-ce pas, qui au contraire se plaît dans les modifications apportées par le pape à la suite du concile. Alors il y a un grand débat. Alors faut-il rayer ce mot dans la liturgie de la messe? Faut-il au contraire le maintenir? Faut-il ceci? Faut-il cela? Mais Dieu est indifférent à cela. Dieu n'est pas intéressé là-dedans, n'est-ce pas? Il est absolument en dehors de tout ça. C'est un problème débattu au milieu des hommes, n'est-ce pas, appelé religieux, qui n'a aucun sens, aucune portée, aucune répercussion dans le ciel. Soyons bien convaincus de cela. Parce que ce n'est pas avec Dieu que l'on avait fait la liturgie de la messe, n'est-ce pas? C'est bien loin de lui, bien loin de sa parole, en opposition avec sa parole. Alors on peut changer quelque chose, n'est-ce pas? Si vous mangez et si vous buvez, c'est encore pour vous que vous le faites. Alors ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas là. Est-ce que nous avons bien compris cela, chers amis? Que Dieu veut des choses authentiques, et où est l'authenticité? Sinon dans le cœur, sinon dans l'Esprit de Dieu qui éclaire le cœur, qui anime les pensées du cœur de l'homme. Alors si le cœur reste ouvert à l'Esprit de Dieu, très bien, alors Dieu sera là, Dieu suivra ce qu'on fera. Mais s'il en est autrement, Dieu est absolument loin, étranger à tout ce qu'on peut faire. Voilà, voyez cette réponse extrêmement intéressante, n'est-ce pas, que nous trouvons dans ce prophète. Au verset 7, « Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habitée, tranquille, avec ses villes alentour et que le midi et la plaine étaient habitées ?» C'est-à-dire avant l'exil. Avant l'exil, eh bien, vous étiez dans votre pays, le pays dans lequel l'Éternel vous avait placé, vous jouissiez d'une certaine sécurité, vous étiez bien, vous étiez le peuple de Dieu, vous n'avez pas persévéré Vous vous êtes au contraire détourné. Bon, mais à ce moment-là, vous aviez pourtant les paroles des prophètes, les prophètes qui ont devancé, qui étaient avant Zacharie, avant Ézéchiel, les prophètes les plus anciens, c'est-à-dire non seulement Jérémie, qui était lui là au moment de l'exil, mais avant lui encore le prophète Ésaïe. Vous aviez ces prophètes qui précédaient l'exil. Alors, ne connaissez-vous pas les paroles? Elles ont pourtant été consignées dans un livre. Ils avaient les rouleaux, les livres qui portaient les prophéties de ces prophètes de Dieu. Alors l'Éternel rappelle qu'il avait déjà, avant l'exil, réclamé la vraie spiritualité, des actes du culte et du jeûne, notamment du jeûne. Il avait demandé qu'il y ait là une spiritualité authentique. Il avait demandé que l'on fasse tout pour honorer Dieu, tout dans l'obéissance à la parole de Dieu, tout dans l'abandon de sa personne à Dieu, dans le don de sa personne à Dieu, ce qui était le bien. Il avait demandé tout cela, et il voulait que les actes du culte fussent le reflet de cette spiritualité des cœurs, des actes qui sont accomplis par habitude, par tradition. Cela non plus, Dieu n'en voulait pas. Il voulait des actes du culte tels que Moïse les avait prescrits, mais ces actes faits en raison de cœurs remplis du désir de suivre l'Éternel, de plaire à l'Éternel et d'obéir à sa parole. Alors, nous avons là, n'est-ce pas, évidemment, des prophètes anciens, nous pourrions en trouver plusieurs passages. Je pourrais, par exemple, vous lire dans Ésaïe, chapitre 1er, verset 12. « Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées, les nouvelles lunes, les sabbats, c'était des fêtes. J'ai en horreur vos fêtes religieuses. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Oh, chers amis, mais vous pensez-vous qu'une telle parole ait pu être supprimée? Mais pourquoi les hommes ne sont-ils pas restés à l'ouïe de cette parole? Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités religieuses, aux actes du culte. Je ne puis voir cela, dit l'Éternel. Ah, et pourtant, dans nos siècles de christianisme, qu'a-t-on fait d'autre? Qu'a-t-on fait d'autre que cela? Que d'associer au culte, à ce qu'on appelait la messe ou autre chose, d'associer le crime, d'associer la désobéissance, d'associer l'égoïsme humain. Et c'est bien ainsi que le christianisme a été conduit là où il est aujourd'hui. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter, dit l'Éternel. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Chers amis, il n'y a pas que les criminels, que ceux qui ont tenu le couteau ou le revolver, dont les mains soient pleines de sang. Nous le savons bien, il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont bien en dehors du contact avec le populaire, avec les masses, et qui pourtant, de leur résidence, de leur bureau, pourtant déterminent des actions qui sont criminelles, et leurs mains sont pleines de sang. Et puis, on pourrait en citer bien d'autres, certes. Jérémie, chapitre 7, et verset 4. « Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Le temple de l'Éternel, si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors là, vraiment, il y aura un temple de l'Éternel. Il ne suffit pas qu'il y ait le bâtiment appelé le temple de l'Éternel. Il faut que le peuple obéisse à la loi de son Dieu et se sanctifie. Voilà ce que l'Éternel avait dit. Nous avons une expression qui figure dans le verset 7 de notre chapitre 7 du prophète Zacharie. Et que le midi et la plaine étaient habités. Le midi et la plaine, ce sont les deux parties de la Terre Sainte qui, à l'époque de Zacharie, n'était pas encore repeuplée. Et alors, étant sans habitants, elles offraient un spectacle de désolation. Et cela parlait aux consciences. Pourquoi la Terre Sainte était-elle sans habitants? Cela parlait aux consciences. Et ici, vous voyez, Dieu remue en quelque sorte un peu le couteau dans la plaie. Il leur dit, mais à ce moment-là, le midi et la plaine, c'est-à-dire les deux parties du pays, étaient habitées. Et maintenant, le sont-elles? Regardez, après l'exil, elles sont privées d'habitants. La plaine, c'est la partie qui est située entre la chaîne de Juda, qui est sensiblement du nord au sud, et puis la côte de la Méditerranée. Pensons, chers amis, à ce que maintenant l'Écriture nous a dit, nous a rappelé de la part de Dieu, n'est-ce pas? Comme il faut être droit de cœur et comme il faut véritablement continuer de marcher, d'avancer dans l'existence en observant, en gardant, comme a dit le Christ, la parole de l'Éternel, la parole de Dieu, et en l'observant, car Dieu nous a parlé, non seulement par un écrit, mais nous le verrons la prochaine fois, par son esprit, et c'est toujours par son esprit que Dieu maintenant sollicite nos cœurs, nous rappelle qu'il nous veut fidèles, par le cœur d'abord, et c'est en raison de la fidélité du cœur que nous pourrons lui offrir la fidélité de notre comportement, de nos attitudes, de nos actes. Nos actes seront ce qu'est notre cœur. Vous savez, la chose la plus difficile pour l'homme naturel, c'est d'obéir à Dieu en esprit, c'est-à-dire par le cœur. Volontiers, on dirait à quelqu'un, es-tu décidé vraiment à faire ce que ton Dieu te demande? Es-tu décidé à cela? Oui. Bon, eh bien, tu vas laver la voiture ou tu vas faire ceci ou cela, n'est-ce pas? Et assez volontiers, on trouverait là de l'obéissance. S'il s'agissait de choses matérielles, s'il s'agissait d'une activité de nature matérielle, n'est-ce pas? Alors là, oui, on trouverait volontiers de l'obéissance. Mais quand il s'agit de faire apparaître l'obéissance dans les cœurs d'abord, d'être fervent d'esprit et de disposer son cœur à l'humilité, à l'amour de Dieu, avant toute chose, car nous ne pouvons rien faire de bon s'il n'y a pas cela. Alors là, c'est beaucoup plus difficile. L'homme naturel s'y refuse. Et c'est donc, nous qui sommes chrétiens, à l'homme spirituel en nous qu'il faut demander ces choses. c'est vous dire si nous avons besoin, n'est-ce pas, de veiller sur nous pour que la chair, car l'homme naturel c'est bien cela, pour que la chair, n'est-ce pas, ne nous entraîne pas, parce qu'elle a des pensées, elle a des penchants qui ne sont pas du tout dans l'obéissance à la parole de Dieu, alors il faut aller du côté de l'homme nouveau que Dieu a fait naître, il faut, avec ce cœur nouveau qu'il nous a donné, c'est avec lui qu'il faut concevoir l'obéissance en esprit, d'abord dans notre pensée, avec foi, avec amour, avec élan, concevoir l'obéissance là, et cette obéissance du cœur en esprit va se traduire par un comportement chrétien, par des actes qui plairont à l'Éternel. Amen.